Chapitre 5. Les nuits de Nicolas étaient tourmentées, et celles-là n'avaient pas dérogé à la règle. Des tourbillons d'images et de pensées obsessionnelles l'avaient empêché de fermer l'œil. Il avait vu et revu cet inconnu mort à ses pieds, cet homme sans papier, avec ses yeux ensanglantés et sa bouche tordue. Il avait revécu chaque minute de son entretien à l'hôpital avec le docteur Hébert, pensé à chaque mot arraché à ses tripes pour le formuler à voix haute. Cette nuit, Camille était à nouveau venue le voir. Elle avait dansé dans le brouillard de ses cauchemars et fait grincer le plancher avec la discrétion d'un fantôme timide. Et puis, il ne fallait pas oublier cette fichue météo, la cerise sur le gâteau. Il avait écouté la pluie crépiter sans discontinuer sur le pont-terrasse juste au-dessus de sa chambre. Les eaux brunes du fleuve avaient dansé à travers le hublot. Aucun doute, elles montaient. Le flic n'avait pas vécu le calvaire de la crue de juin, mais il sentait la tension grandissante des pénichards le long du port d'Asnières-sur-Seine. Les coups de marteau et les claquements de planches qu'en entrechoc avaient résonné tard la veille. Sur les berges, on commençait à rehausser les passerelles avec des empilements de parpaings. On discutait entre voisins, au bord des quais. Sur le site des voies navigables de France ou de Vigicru, on surveillait la météo, le débit de la rivière Le Grand Morin à 100 km de Paris, ainsi que celui de la Marne et de l'Yonne, des affluents de la Seine. Les lacs-réservoirs étaient remplis aux deux tiers de leur capacité. L'enchaînement des catastrophes météorologiques rendait les plaisanciers paranoïaques à chaque nouvel épisode pluvieux prolongé. Nicolas fit une rapide toilette dans la minuscule salle de bain qui prolongeait sa chambre. Depuis sa douche, il ne se lassait pas de la vue sur le fleuve d'un côté, les arbres de l'autre. Les odeurs de limon mêlées à celles de la cire. Sentiment d'un ailleurs, même s'il suffisait de lever les yeux pour se heurter aux barres d'immeubles d'Asnières en toile de fond. Mais le capitaine de police aimait l'illusion de liberté, le tangage, la résonance du coffrage du bateau dans l'obscurité et ce subtil roulis qui invitait au voyage. Il s'était saigné pour acquérir cette vieille péniche fraissinée des années 70. 150 000 euros empruntés à la banque sur 20 ans. Des mensualités ravageuses et surtout une location d'anneaux de plus de 8 000 euros par an. Ce qui lui revenait à louer son propre bateau, mais il ne pouvait plus vivre en appartement. Acheter une maison dans les environs de Paris avec un petit jardin relevait de la science-fiction. Et puis, un bateau pour un homme seul, à 4 stations de métro des nouveaux locaux de la PJ, c'était l'idéal. La liberté se payait cher. À 9 heures, un café dans l'estomac, il chevaucha les passerelles flottantes et foula les abords du port Van Gogh. Table en bois pour les pique-niques, une balançoire accrochée à une branche, des vélos, des ballons, un monde à part, où quelques dizaines de familles avaient décidé de s'installer. Le policier salua le maître de port planté devant la capitainerie, franchit la grille d'accès, marcha 5 minutes et attrapa le métro bondé à Gabriel Péri. Il rejoignait la jungle avec ses chimpanzés, comme se plaisait à l'écrire l'ange du futur. Lui aussi appartenait à la horde. Direction l'Institut médico-légal, l'IML. L'autopsie du cadavre découvert dans les bois avait débuté à 9 heures, et Nicolas avait insisté auprès de Charcot pour y assister. Le métro aérien vira vers la gauche dans un grincement amer juste après le pont d'Austerlitz et avant la station quai de la Râpée. Par la fenêtre, on distinguait le grand paquebot de briques rouges coincé entre la Seine et la ligne 5, l'IML de Paris, là où, dans la plus grande discrétion, 3000 cadavres transitaient chaque année, soit une moyenne de 10 par jour. La mort se fichait de la météo, des problèmes financiers et des chimpanzés. Elle travaillait à plein régime. Nicolas quitta vite la rame, traversa le square Albert Tournaire et courut jusqu'à l'entrée des visiteurs, capuche sur la tête, avec 20 minutes de retard au compteur. Il discerna au bout du couloir une silhouette assise sur une chaise, face au buste hiératique des différents directeurs de l'Institut. Lorsqu'elle l'aperçut, Audra Speak se dirigea vers lui au pas de course. Elle tenait son manteau en laine dans une main et un parapluie noir dans l'autre. Nicolas ne pouvait nier qu'elle attirait l'œil, avec sa veste en lin beige, son foulard bicolore et ses derbies bien vernis comme dans les vitrines des magasins. Sa coupe au carré, couleur aile de corbeau, encadrait un visage aux pommettes hautes, aux yeux gris-bleu, légèrement en amande. Elle n'était pas grande et très menue. Ils se serrèrent la main. « Avant toute chose, je voudrais vous remercier. Quand j'ai vu le numéro du commandant Charcot s'afficher sur mon téléphone hier soir, j'ai cru que vous lui aviez raconté pour l'hôpital, mais il n'était visiblement au courant de rien. »
L'hôpital, c'est l'hôpital. Le boulot, c'est le boulot.
Bienvenue dans l'équipe, brigadier chef Pic. Je reviens. Nicolas la planta là, et il alla se renseigner à l'accueil. Puis il se dirigea vers les escaliers. Elle le suivit en toute discrétion.
Je ne sais pas comment t'as fait pour cacher ça, mais attaqué au 36 en étant traité pour un syndrome de stress post-traumatique que tu n'as pas mentionné à ta nouvelle hiérarchie, moi je dis bien joué. Ça te donne des bases sacrément saines dans l'équipe.
Tu n'étais pas censé savoir, toi non plus. C'est très personnel. C'est l'hôpital qui a mal géré l'anonymat et...
Laisse tomber, j'ai déjà oublié.
J'espère juste que tu pourras faire le job, parce que, comme tu peux le remarquer, t'es direct dans le jus. J'ai l'impression que tu t'es mise sur ton 31, que tu t'attendais peut-être à passer une journée cool et faire le tour des bureaux. Mais il faudra attendre pour ça.
Pas de souci.
T'es au courant de l'affaire?
Franck Charcot m'a briefé au téléphone. Un corps découvert hier matin dans une forêt. Nu, anonyme et mutilé. Comme tu dis, je rentre directement dans le vif du sujet.
Nicolas hocha la tête, puis ne décrocha plus un mot. Audra se contenta de le suivre. Aussi sympathique qu'une porte de prison, le type. Décidément, ça n'allait pas être facile à Paris, une ville qui l'avait toujours déprimée, dont elle ne connaissait rien 6 mois plus tôt et où elle n'avait aucune famille, nul ami. Mais quitter le Sud et recommencer à zéro ailleurs, en suivant le programme France Mémoire Vive, avait été l'unique moyen de s'en sortir. Juste avant d'entrer dans l'arène, Nicolas se tourna vers elle. La veille, il avait scruté son CV. 2 ans de bac nuit à Marseille, 3 ans au stup à Toulon, 3 à la traite des êtres humains à Nice. Aucun trou dans son parcours. Si elle avait été une victime de l'attentat sur la promenade des Anglais, ce qu'il supposait étant donné sa participation au programme, et si elle suivait un traitement aujourd'hui, comment avait-elle pu continuer à travailler depuis juillet 2016, à cacher sa souffrance à tout le monde? L'alcool? Les médocs? La coke? Comme lui à une époque?
Ça va aller?
Elle était pâle. Remettre les pieds dans une morgue l'affectait toujours autant. Elle cligna des yeux. Les images, les sons, les odeurs du drame 16 mois auparavant se ravivaient à l'approche de la mort. Elle sentait encore la chaleur du sang dans ses mains, le souffle chaud dans sa nuque, la pression des doigts contractés dans son dos, ses pupilles s'étrécirent lorsqu'elle releva les paupières.
« Oui, ça va aller. »
Mais à vrai dire, rien n'allait.